genrée, mais c'était très, très atténué. C'était très secondaire, très secondaire. Et même sans participer de façon personnelle au mouvement hippie, au baba cool, etc., quand on regardait les lycéens, les lycéennes de notre génération, hein, où on était en pull marine, gris, etc., très large, on ne voyait pas les formes des filles, honnêtement. Et quand on regarde maintenant nos jeunes ou nos enfants, où j'entends les remarques, hein, encore là pendant la pause, une élève m'expliquait qu'on se fait reprocher en tant que fille, quand on est lycéenne, de ne pas être assez féminine. Je n'ai jamais entendu ça du tout. Donc voilà, donc c'était pour compléter. Vraiment, j'ai été éduquée en tant que personne et accessoirement, parmi d'autres traits qui me concernent, il se trouvait que j'étais une fille, mais pas plus, vraiment pas plus. Alors après, j'ai une question parce que j'ai entendu l'expression qu'il y aurait une essence féminine et une essence masculine. Donc je suis très intéressée pour savoir, quand vous utilisez cette expression, à quoi ça correspond pour vous. Sachant que moi, derrière, j'ai une autre interrogation. C'est que je me demande dans quelle mesure on ne confond pas l'essence d'une personne et sa nature. C'est-à-dire que, effectivement, le fait qu'on ait génétiquement... Enfin, moi, j'étais très intéressée par l'argument comme quoi toutes les parties de notre corps sont différentes selon si on est un homme ou une femme, et il n'y a pas de raison que le cerveau ne soit pas le cas. Donc, ça, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Mais en même temps, en quoi tout cet aspect génétique, chromosomique, corporel, etc., hormonal, correspondrait à notre essence? Donc je voudrais savoir qu'est-ce que pour vous que l'essence féminine et qu'est-ce que l'essence masculine? Voilà.
Je prends le relais après la bière. En fait, quand j'ai dit ça, alors mon interprétation, ma définition de ce terme, c'est vraiment l'idée qu'on a en nous certaines caractéristiques biologiques qu'on peut effectivement différencier en tant qu'homme et en tant que femme. Alors, différence, hein, je n'ai pas dit après que 100% explicatif, comme je le nuançais tout à l'heure, mais je pense qu'on a ça effectivement en nous. Et l'essence, au sens justement ontologique, c'est-à-dire ce qui caractérise notre être, c'est un des déterminants, une des caractéristiques de notre personnalité, de notre façon d'être, de notre façon d'exister. Et essence aussi, j'allais dire, au sens de carburant, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avancer, c'est quelque chose aussi qui nous pousse. Donc ça, personnellement, je considère que les études qui ont pu mettre en avant ce genre de choses sont valides de ce point de vue-là. Après, je considère qu'elles ne sont pas 100% déterminantes et 100% déterministes, au contraire, puisque pour moi, et c'est forcément ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, la grande particularité des individus, c'est d'être façonné quelque part par leur environnement, en particulier social, et aussi de le façonner. Donc pour moi, la majeure partie des comportements sont liés à cette considération-là. Et je ne donne pas de l'importance plus une importance fondamentale à ces différences d'essence, justement, parce que je considère qu'elles ne sont pas déterminantes. Elles n'auraient jamais dû prendre, pour moi, sur le plan historique, comme disait tout à l'heure la question de monsieur, une place aussi déterminante dans la classification binaire qu'on a eu des espaces, des sociétés, des institutions, ou dans l'organisation politique, qui a toujours été renvoyée justement à cette nature. Donc c'est ça un petit peu que j'essaie de mettre en avant en disant je ne suis pas, c'est peut-être choquant pour un sociologue, dans le sens où je ne suis pas dans le 100% acquis, dans le 100% culturel, je considère qu'il y a des phénomènes innés qui aussi nous guident quelque part. Par contre, je considère qu'ils sont très très largement façonnés et inférieurs dans le sens de dans notre comportement humain à tous les aspects construits, culturellement développés, dans des institutions, des produits historiques, d'héritage, etc. quoi. Voilà ce que j'ai voulu dire.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai quand même des objections. C'est que...
Oui, votre honneur.
Justement, par rapport à l'utilisation de cette notion d'essence féminine-masculine, il y a quand même un côté très tranché homme-femme. Et... Alors, peut-être aussi, c'est effectivement toutes les analyses de Fausto Sterling, dans Corps en tout genre, enfin, cette biologiste quand même qui s'est beaucoup intéressée, y compris dans Corps en tout genre, elle se pose la question de ce soir, hein, le cerveau a-t-il un sexe? Et ce qui est intéressant, en fait, dans son analyse, c'est que nous, on éprouve le besoin de trancher, de mettre des étiquettes, de mettre des catégories sur une réalité qui serait plus un continuum, qui serait plus mouvante que ce qu'on veut bien l'admettre, parce qu'on sait bien que les catégories, dire il y a une essence de ceci, il y a une essence de cela, ça nous rassure beaucoup. Et quand même, on revient aussi à des points qu'on a un peu évoqués ensemble, alors pas du tout transsexuel tout de suite ou quoi, mais au niveau anatomique et biologique, il y a quand même 4 personnes pour 1000 qui sont intersexuées. Donc c'est quand même pas rien, hein, on va pas faire de l'exception la règle, mais si on dit qu'il y a une essence féminine, il y a une essence masculine, effectivement, alors on va leur faire des toilettes spéciales, on va dire il y a une troisième essence de ceux qui sont ni l'un ni l'autre, enfin, on n'en sort plus. Et est-ce que c'est pas plus rigoureux par rapport à la réalité biologique, hein, en dehors même de la question de l'essence, mais même au niveau naturel, est-ce qu'il n'est pas plus rigoureux et objectif d'admettre que c'est pas si tranché qu'on voudrait bien le prétendre?
Mais pour moi, c'est, là-dessus, je vous rejoins à 100%. C'était l'objet de tout à l'heure de mon intervention. Maintenant, pour moi, ça n'empêche pas que les différences soient, à un moment donné, situées dans un continuum. Et je suis d'accord avec ce que dit Fausto Sterine quand elle dit le sexe est trop complexe pour que ce soit et ou l'un et ou l'autre. C'est justement ce que j'ai essayé de mettre en évidence tout à l'heure en parlant des chromosomes aussi. Mais je continue à penser, en tout cas en ce qui me concerne, mais je n'ai pas la vérité, que certaines... études peuvent quand même souligner certaines différences qui, en tout cas, peuvent d'une certaine manière aussi conditionner certaines formes de comportement sans qu'ils soient déterminants et déterministes. Voilà, sur mon point de vue.
Je voudrais juste dire une chose qui me vient à l'instant. Nous parlons du cerveau, on parle d'un organe qui n'a de sens et de détermination dans la décision humaine que s'il est le support d'une pensée. Alors, quand on parle de le cerveau a-t-il un sexe, on pouvait penser des différences anatomiques ou des différences d'organisation de ce circuit neuronal, de réverbération, de zone. Mais finalement, quand on parle là de l'aspect sociologique, est-ce qu'il y a une pensée influencée par l'inné et l'acquis? Est-ce qu'il y a une pensée féminine et une pensée masculine? Est-ce qu'il y a un mode de pensée masculin, un mode de pensée féminin? Est-ce que c'est le cerveau qui génère la pensée? Est-ce que c'est biologique? Est-ce qu'en retour, quand vous parlez... Moi, je suis aussi tout à fait partisan des thèses de la diversité, d'intégration globale, de polarité multiple. Mais c'est vrai que là, j'entends l'idée du débat, c'était justement d'ouvrir à d'autres dimensions. Et c'est d'ailleurs celle qui prédomine, parce que la représentation anatomique, c'est la chose qu'on observe maintenant en dynamique par les caméras. Mais avant, c'était juste de l'anatomopathologie de cerveau coupé. Alors, qu'est-ce qu'il en est quand on dit... Il y a des choses qui courent comme ça. L'intuition féminine, par exemple. Bon, l'intuition féminine, depuis qu'on a fait des tests plus précis, ça n'existe pas quand on fait... Qu'est-ce que l'intuition? Alors, on garde des représentations. Alors, est-ce que c'était pour distribuer les qualités, les défauts d'un sexe à l'autre pour faire plaisir à tout le monde? Est-ce que c'est un support cérébral? Est-ce que c'est un support de neuromédiateur? Est-ce que c'est un support de localisation? Donc, quand on parle de féminin, de masculin... D'abord, on parle de féminité, il n'y a qu'un mot. Pour les hommes, il y a masculinité et virilité, il y en a deux. Alors, est-ce que c'est supporté par des lésions ou des représentations anatomiques ou par la représentation, ça a été dit, la représentation que le sujet se fait lui-même de ce qu'il est? C'est quand même une question. Quand vous parlez de génération, à la mienne, à celle des autres, enfin bon, on n'a pas deux siècles d'écart ici dans cette salle. Maintenant, il y a des particularités familiales. Dire finalement, est-ce que c'est important d'être garçon ou fille pour être connu? Ça dépend de la société dans laquelle on évolue. Mais le primum 20, c'est comment on est reconnu dans sa propre famille au départ. Et pour ma part, j'ai d'autres choses, puisque j'ai le micro là. À propos du comportement sexuel, parce que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup dans les médias, à propos justement ce qui avait été commencé là. À propos de la décision, à propos du viol notamment, les violeurs, récidivistes, les hormones, je peux dire que les travaux de castration chimique, on a dit beaucoup de choses là-dessus, mais il n'y a absolument pas de lien entre... pas de lien, on a démontré que tous les violeurs n'avaient pas forcément des hypertestosteronémies. Donc la décision, pas forcément supportée par telle ou telle variation anatomique. Alors, est-ce qu'on décide de dire que finalement, ce n'est pas important d'être homme ou femme dans son développement et sa reconnaissance? Et essence, moi, je pense quand même, c'est bien, la distinction nature et essence, elle est extrêmement importante. Maintenant, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde quand on pose cette question-là?
Je pense à une histoire célèbre qu'on raconte souvent dans les milieux qui travaillent sur le genre. Il y a quelques années, il y avait un show à la télé américaine qui s'appelait Le Stagiaire. Ah oui, alors voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans votre question, j'ai le sentiment que le problème ne se pose pas de la même façon pour les femmes et pour les hommes, en fait. Alors voilà mon exemple. Le show s'appelait Le Stagiaire, c'était un show de télé-réalité organisé par le fameux Donald Trump, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il est candidat à la Maison-Blanche. Et Donald Trump organise ce show, et en fait, c'était comme tous les shows de télé-réalité, assez sadique. On éliminait un candidat à chaque fin de semaine pour ne garder à la fin que le meilleur qui allait devenir stagiaire chez Donald Trump avec, il disait, un salaire avec 6 chiffres. Voilà, donc il allait devenir pendant un an. Et à un moment, dans ce show, donc vers 2 semaines avant la fin, donc c'est passé à la télé, on voit un clash comme ça entre deux candidats, un homme et une femme. Et il s'agissait de prendre une décision, de porter la responsabilité de cette décision, mais les conséquences étaient très incertaines et pouvaient s'avérer disqualifiantes, en fait. Et donc, aucun des deux candidats ne voulait prendre cette décision. Et là-dessus, il y a la femme qui dit à l'homme, « Allez, quand même, sois un homme. Come on, be a man. » Et alors, lui, il se retrouve comme un idiot et dit, « Ben, toi, sois une femme. Be a woman. » Et elle lui répond, I am a woman, je suis une femme, et elle sort. Et lui, il reste comme un con à se demander, mince, mon argument est tombé à l'eau, et du coup, il a été éliminé. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expression soit un homme, elle a un sens, enfin, elle veut dire quelque chose, après, je ne sais pas si elle est juste ou fausse, mais. Et l'expression soit une femme à une femme, c'est une sorte de tautologie, ça veut dire la même chose. Bon, voilà. Donc, voilà, peut-être le problème ne se pose pas de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Et cette anecdote le pose bien.
C'est bon. Moi, je voudrais aborder la question des sociétés traditionnelles où c'est le matriarcat qui fonctionne. Alors, est-ce que c'est des hommes qui ont un cerveau de femme? Est-ce que c'est des femmes qui ont un excès de testostérone, ou bien est-ce que c'est le poids de l'organisation sociétale qui fait que ça fonctionne comme ça? Est-ce qu'on a un peu des avis là-dessus?
Moi, j'avais plutôt connaissance qu'il y avait très très peu de sociétés matriarcales. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés matrilinéaires, comme j'ai dit tout à l'heure, où les femmes transmettent leur nom dans la lignée. Mais en termes de pouvoir monopolisé, comment dire, toutes les sociétés organisées à partir de ce pouvoir hégémonique des femmes, en tout cas dans les travaux des anthropologues, moi j'en ai vu peut-être qu'une seule, et encore il y a comment dire, il y a l'influence des frères, c'était chez les Na en Chine. Après, j'ai pas connaissance d'autres sociétés où le pouvoir est matriarcal. Plutôt pour moi, c'est plutôt des sociétés organisées de façon patriarcale, même si dans certaines d'entre elles, il y a une transmission du nom par la mère. Donc, à ma connaissance. Pour ce que je connais, après, vous avez peut-être d'autres exemples à me donner.
Il me semble que chez les Maoris, on a des sociétés avec des reines, avec donc là on a vraiment un système politique qui est organisé sous forme de matriarcat. Et effectivement, on a une répartition des tâches qui est un petit peu différente de celle qu'on connaît nous traditionnellement entre hommes et femmes.
Je connais pas, à part dans le rugby, mais je connais pas cet exemple dans l'organisation même des sociétés. Donc là, je peux pas vous en dire plus. Moi, les exemples que je connais tendent plutôt vers l'inverse et tendent plutôt à montrer que la norme, c'est plutôt le patriarcat et que l'exception, c'est plutôt la règle. Avec, comme je disais tout à l'heure, notamment dans la religion, tout a été globalement condensé autour de l'idée d'un dieu qui était même masculin, quoi. Et le pouvoir du régent, comment dire, découlait de cette situation divine, naturalisait les choses aussi, quoi. Et du coup, c'était à travers certains comportements, toute la société qu'on questionnait, comme l'exemple de l'origine du mot charivari, où c'était les villageois qui allaient taper toute la journée à la porte, à la fenêtre du voisin qui avait été trompé par sa femme, pour rappeler finalement qu'il avait été fautif vis-à-vis de sa femme, parce qu'il n'avait pas suffisamment surveillé, mais aussi surtout vis-à-vis de cette société patriarcale qui mettait en danger par son comportement, entre guillemets, laxiste, qui était condamné par les autorités religieuses aussi, quoi.
Je reviens peut-être à l'épisode juste avant. En terminale, il y a très très longtemps, au lycée Vaugelas, on avait étudié Jung, Carl Gustav de son prénom, Et on avait été, enfin personnellement, j'avais été très très intéressé par Animus Anima. Alors, c'est vrai que c'était une époque où on parlait plus peut-être de psychologie, voire de psychanalyse, et beaucoup moins de neurosciences, et de neuropsychologie comme maintenant. Ceci dit, on était assez nombreux, alors, à l'époque où je l'ai été un lycée de garçons, donc... À l'époque, on avait été assez nombreux à être intéressés. Et à titre personnel, je crois que j'ai toujours eu présent à l'esprit cette façon de présenter, alors peut-être même de valoriser la différence, si elle existe, mais qui n'est pas une différence ni de sexe ni de genre, finalement, qui est une différence... Vous avez utilisé le mot tout à l'heure de psyché, de psychologie, et qui a qui permet quand même de se dire que le sexe, ni le sexe ni le genre, empêche le mental de quelqu'un d'avoir de balancer. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ma question serait, est-ce qu'aujourd'hui, Jung, on ne le publierait peut-être plus du tout d'ailleurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques trouveraient quelque chose, peut-être certains s'y sont penchés d'ailleurs à travers le monde, pour alimenter avec des données biologiques, neurologiques, d'alimenter cette capacité du cerveau à balancer entre deux formes d'identité, quoi. Et encore une question pour le prof de philo, je suis absolument désolé, il est chargé ce soir, mais si vous pouviez aussi...
Alors moi, je dois commencer par avouer une ignorance, c'est que je ne connais pas les travaux de Carl Gustav Jung, et surtout l'animus anima, je ne sais pas ce que c'est.
Adressé à Laurent, qui était mon prof de philo, d'ailleurs. Ce qui est tout à fait vrai, ça peut vous faire rire malgré la grande différence d'âge. Non, je pense que développer, c'était un petit peu le propos effectivement, parce que quand j'ai parlé de bipolarité psychique, alors c'est vrai que c'était, la notion jungienne a permis justement d'opposer de animus et anima, masculin, féminin, et moi je rejoins assez bien sûr ce propos, dire qu'au fond, il y a un déterminisme, et puis après il y a l'alchimie entre deux parties reconnaissables, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, assumable dans une société telle qu'elle est déterminée. Alors là, par rapport à ma profession, moi j'en vois, quelles que soient les générations, parce que, bon, à part les enfants petits, je ne suis pas pédopsychiatre, mais de 16 à 60, 70 ans, la problématique pour des gens qui n'ont pas... Certains sont nés bien avant 68, d'autres bien après. Et quoi qu'il en soit, la problématique de la reconnaissance de soi, des caractéristiques, de la perception d'être masculin ou féminin, j'entends beaucoup de personnes pour lesquelles l'aide qu'on peut leur apporter, c'est justement de les réconcilier avec l'idée que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas typiquement dans ce qu'ils devraient être ou ce qu'on attend d'eux-mêmes dans une famille par rapport à leur sexe apparent, global, réconcilier avec l'autre partie. Et c'est vrai que le partage homme-femme dans la psyché, c'est quelque chose qui n'intéresse plus beaucoup maintenant, puisque ces travaux jungiens, ils datent du début du siècle d'avant. Hein, c'était aussi la contradiction avec Freud, pour lequel, effectivement, s'il a reconnu la bipolarité psychique, avait cette idée qu'au fond, pour Freud, la femme, c'était un homme qui avait perdu quelque chose. Ça se définissait qu'à partir de là. Et oui, de toute façon, toute la problématique de la castration. Alors maintenant, on n'oppose pas, on ne peut pas dire que l'homme c'est le contraire de la femme ou que la femme c'est celle à qui manque quelque chose de fondamental. Et Jung avait déjà ouvert, mais avec beaucoup plus d'ouverture sur l'orientalisme aussi, sur la symbolique, et où on retrouve aussi, finalement dans cette image qui est tatouée, représentée sur les t-shirts, c'est la question du yin et du yang, qui finalement ramène bien un peu à la même chose. Mais toute la subtilité, c'est qu'il y a une petite partie, il y a un petit point de l'autre partie dans la moitié sans frontières tranchées. Alors après, pour expliquer toute l'œuvre jungienne, je pense que ce n'est pas lieu, mais enfin, on peut en rediscuter, oui.
Juste sur l'enseignement de terminale, on parle peu de Jung, enfin moi j'en parle pas. On parle Peut-être. On ne peut pas parler de tout. Hein. Vous savez, l'année se termine et on voit nos élèves partir. On se dit, oh, y a encore plein de choses à leur dire et il n'y a plus le temps. On parle beaucoup de Freud et ça leur parle. Ça leur parle parce qu'il y a l'inconscient au programme. Et quand on leur parle de Freud, quand tout à coup, parce que la psychanalyse, ce que moi je présente de la psychanalyse, qui est l'élémentaire, hein, c'est quand même pas mal structuré autour de la différence homme-femme, en fait. Elle est très maintenue, cette différence. Alors, donc, je laisserai Philippe compléter. Elle est très maintenue. Alors, ils accrochent les idées, ça les intéresse. Ah oui, il y a de l'inconscient, et ça va s'exprimer, et tout, et ça refoule, et tout ça. Ils sont à fond, surtout les filles. Puis quand on arrive à une distinction homme-femme, là, elles ne comprennent plus. Je dis, mais et les filles? Ah ben non, désolé, non. Le complexe d'Oedipe, c'est Oedipe, voilà. Et moi, je me souviens, on a fait un cours sur le narcissisme. Et là, il dit des choses sur le narcissisme absolument stupéfiant. Il dit qu'une belle femme, elle est foncièrement narcissique. Et que c'est son narcissisme qui la rend séduisante, au fait, aux yeux des hommes qui ont perdu cette fonction narcissique et qui aimeraient finalement la retrouver en aimant cette femme. Et alors là, ça passe plus du tout. Voilà. Il ne faut pas oublier. Et donc, c'est pour ça, c'est bien qu'on ait un psychanalyste à la tribune, que la psychanalyse, effectivement, elle maintient quand même. C'est une différence, il me semble, hein, bon, je laisserai compléter, fondamentale entre l'homme et la femme.
Après, je pense aussi qu'il y a un concept fondamental chez Jung, c'était celui d'individuation. Et je trouve qu'on retrouve vraiment bien aujourd'hui, encore une fois, enfin, je reviens sur la population que j'ai investiguée, mais cette volonté de créer à partir du semblable de la différence et de marquer ostensiblement cette différence pour non seulement l'afficher, mais être par cette différence, je trouve qu'elle revient vraiment. Et moi, c'est le parallèle que je fais quand j'entends parler de Jung avec ce concept fort d'individuation qui me semble très marquant aujourd'hui, très marqué même dans nos sociétés.
Bon, moi, je suis un petit peu embêté pour aborder ces questions-là. Hein. La science, l'approche scientifique, elle a forcément un côté un peu décevant, qui est qu'elle est obligée de réduire les grands problèmes à des petits morceaux de modèles réduits. Et puis, on va faire une hypothèse, la tester avec un paradigme qui vaut ce qu'il vaut, arriver à une conclusion. À partir du moment où on a une conclusion, on arrive à produire un fait scientifique, c'est-à-dire un fait reproductible, qu'on peut prévoir. Hein. Si je fais ça, ça, ça et ça, je dois arriver à ça, ça se confirme, je suis prédictible, donc je suis scientifique, hein. Je suis réfutable, on peut trouver un moyen de montrer que j'ai tort. Le fait, ensuite, une fois qu'il est posé, là, il y a une porte ouverte qui fait, en gros, les deux tiers d'un article scientifique, qui est la partie « on en fait quoi ?» C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on va confronter ça à ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut en dire, dans quelle mesure on peut aller spéculer tel ou tel aspect. Et là, on sait très bien qu'on est dans une porte ouverte. On se fait un peu plaisir hein, quand on fait ça, mais on se fait plaisir. C'est-à-dire qu'on reste quand même sur des choses. La seule chose qu'on peut espérer éventuellement, c'est que ce nouveau fait puisse contribuer à changer le modèle qu'on utilise jusqu'à présent parce qu'il le met en contradiction avec un point, etc. Et le modèle évolue. Mais en fait, lorsqu'on aborde des questions aussi éthérées, c'est quand même très très difficile d'aller avec la science chercher des puces là-dedans. Hein.
Je voulais aborder le thème de l'instinct maternel en faisant remarquer qu'on parle de l'instinct maternel et jamais de l'instinct paternel. Et puis ma question c'est est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que ça n'est pas une construction artificielle, ça, cet instinct maternel ?
Alors je vais répondre par une question. Oh oui, maintenant les psychiatres répondent toujours par des questions. D'abord, j'ai été formé à la psychanalyse, mais je suis psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, je fais plein d'autres choses. Cette question, la question que je vous pose, pourquoi y a-t-il dans les prisons infiniment moins de femmes que d'hommes ? Pourquoi y a-t-il dans la récupération des points, ça je le sais, parce que je suis allé deux fois de suite récupérer des points, infiniment plus d'hommes que de femmes à la récupération des points au permis de conduire ? Bon, je répète, pourquoi il y a infiniment moins de femmes dans les prisons et infiniment moins de femmes, par exemple, dans un délit banal qui fait perdre des points. Alors, est-ce que vous avez une idée de la réponse au pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, en fonction de leur cerveau, de leurs hormones, de la tolérance des agents, de la moindre répression vers la femme ? Bon, ben, puisque personne ne veut répondre, ça répond un peu à votre question. Qu'en est-il de l'instinct ? Ben, il en est de l'idée que la femme, elle ne pense pas qu'à elle. Finalement, si elle est moins délinquante, c'est que par rapport au fait, on peut le penser, que finalement, l'idée de la procréation, de la responsabilité de la génération suivante, de la protection, fait qu'elle elle a moins... Et ce n'est pas une question d'hormones. Hein. C'est une question, vous posez la question de l'instinct, c'est qu'est-ce qui fait que, au fond, la femme, accident banal dans la rue, une femme qui tombe, ah, mince, je vais vous amener, ça va, mais qui c'est qui va récupérer les enfants à l'école? C'est pas uniquement parce que la société a décidé que la femme, elle faisait ça ou pas ça. C'est qu'il y a cette idée d'instinct. Alors, est-ce qu'on parle pas d'instinct masculin? On parle de l'instinct maternel, on ne parle pas d'instinct paternel. C'est-à-dire que la mère, à l'origine de la chose qui enfante, le père, on l'introduit après dans la place que lui donne la mère. Mais moi, je ne suis pas gêné de retrouver des instincts masculins, mais pour ce qu'il en est de l'instinct maternel, il y avait un livre qui avait été écrit quelques années devant une psychanalyste et qui s'appelait « La femme sans qualité ». Justement, on va t'embrasser toutes les questions. C'était une psychanalyste, hein. Psychanalytique, sociologique, elle disait que, c'est pour ça que tout à l'heure je disais le sexe, ben, le sexe c'est vagin et organes, et ovaires qui déterminent, comme chez l'homme c'est pénis, testicules, et justement elle développait tout ça en disant que finalement la femme est utérine, et que le fait que la femme puisse enfanter, on en a parlé à plusieurs reprises, alors est-ce que c'est ça l'instinct maternel, et est-ce qu'il existe chez une femme qui ne veut pas d'enfant? Moi, cette question-là, je la trouve très intéressante, effectivement. En tout cas, on a des représentations qui ont de fondamentales différences dans le comportement, dans la préservation de soi, dans le souci de l'autre. Et à propos des sociétés patriarcales ou matriarcales, il y a aussi beaucoup de cultures, ça on le voit au pénal beaucoup. Finalement, on a des sociétés, alors je pense où les femmes ont un rôle prépondérant, ça c'est ce qui dans les collectivités maghrébines d'intégration maintenant, où les daronnes, comme disent les jeunes, ont une importance capitale, alors qu'on est dans des sociétés typiquement patriarcales, masculines. On ne va pas rentrer dans le débat des religions sur le social et les lois laïques. Hein. Donc la question de l'instinct, effectivement, l'instinct maternel, on garde cette idée. Alors est-ce qu'elle est représentée dans le cerveau de la femme? Est-ce qu'elle est visible en 3D ou à la caméra en positon, c'est possible. Alors pour te répondre, moi je pense que l'interdisciplinarité, c'est une chose fondamentale, c'est pas du tout c'est éthéré du côté de la psychanalyse, c'est juste la science du côté du cerveau, parce que pour avoir parcouru vu mon âge, moi c'était déjà mixte quand j'étais jeune, non, enfin quand même. Moi je suis entré dans la psychiatrie dans les années 70. Donc on était tout psychanalytique, antipsychiatrique, sociopsychiatrie, on avait arrivé le comportementalisme, maintenant les neurosciences, je ne pense pas qu'il y ait des oppositions à faire. Et que... Non, l'intégration de différents courants avec l'épistémologie, la philosophie des sciences, montre. Moi je suis très intéressé, ben, tu le sais, à regarder ce qui se passe aussi, mais ce qu'on fait dire aux images dans une société d'images ne rend pas compte des processus psychiques. Notamment, c'est assez facile à dire, la localisation de l'inconscient, par définition, c'est assez complexe à se le représenter. Alors, pour la question de l'instinct, qu'est-ce qu'il en est de l'instinct? En tout cas, il y a des choses qui font que les femmes ont quelque chose en elles dans ces représentations-là, dans les comportements sociaux. Alors maintenant, on est brouillé par des expressions qui font que, oui, les filles disent d'une autre fille, oh, elle n'a pas de couilles. Enfin bon, dans les expressions populaires, effectivement, on ne s'y retrouve plus tellement. Ben, non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend. Alors, l'instinct, qu'est-ce que c'est? Alors, après, ça, c'est l'instinct. On a parlé de nature et d'essence. L'instinct, c'est une notion qui est soit animal d'instinct ou. Philosophiquement, l'instinct, est-ce que c'est quelque chose dont tu peux donner une définition?
Il y a un truc auquel je pense, c'est que chez Freud, par exemple, le mot employé, c'est trib, pour dire pulsion, et tribsal, c'est l'instinct, donc c'est quasiment la même racine.
Voilà. C'est allemand.
Oui, c'est allemand. Mais pour dire que la notion de pulsion n'est pas forcément quelque chose de purement animal.
Tout le monde s'intéresse à Freud, on dirait qu'on ferait à mal travailler, ça m'arrange.
Sur l'instinct, moi je voudrais juste, revenant un petit peu au sujet cerveau, rappeler que cet instinct, il a un rôle. Alors instinct, je mets des gros guillemets parce qu'effectivement je ne sais pas très bien ce qu'on entend par instinct maternel, hein, mais il faut rappeler qu'on a donc le privilège d'avoir un cerveau qui est extrêmement développé, mais ce privilège a de gros inconvénients, en particulier celui d'entraîner très vite un conflit entre la taille du cerveau qui se développe chez le fœtus et la filière qui permet l'accouchement. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut que le bébé sorte, parce que s'il continue à grandir comme ça du crâne, donc du cerveau, il ne pourra plus sortir. Du coup, ça fait que lorsqu'il sort, il est extrêmement prématuré en termes de développement, notamment cérébral. C'est-à-dire qu'on a un conflit à résoudre, il faut qu'il finisse de se développer dehors. Et en fait, on sait maintenant que le développement cérébral va se poursuivre jusqu'à l'âge de 25 ans. Et il est hors de question que les mères gardent leurs enfants dans le ventre jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on a ce problème. Donc il est très prématuré, donc il est très dépendant. Il est très dépendant et il va avoir besoin de soins, hein, de protection, de manière très prolongée par une personne notamment très proche de son entourage qui va être, dès le départ, la mère. Ensuite, de plus en plus, la place est faite au père, heureusement, c'est très bien. Hein. Mais voilà, c'est pour souligner le fait que cet instinct, je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière, en tout cas, répond à un besoin évolutionniste, lié à l'évolution, qui est qu'il a fallu qu'on résoudre ce problème d'un enfant qui naît très très prématuré, qui a besoin de soins extrêmement proches. Il est absolument indépendant par rapport au bébé le veau va se lever, tout de suite partir à quatre pattes, brouter les minutes qui suivent son accouchement. Hein.
Bonsoir. Je me permettrai deux petites questions parce qu'elles sont directement liées à mon sens. La première, c'est est-ce qu'il existe une zone dans le cerveau où le sexe qui détermine le sexe de la personne ? C'est-à-dire que si un jour cette zone du cerveau est détruite, est-ce que la personne n'est plus capable de s'identifier sexuellement ? Et la deuxième question qui est liée, en fait, correspond à la question de ce soir, c'est est-ce que le cerveau a un sexe ? Comme on vient de le dire assez régulièrement tout à l'heure, le cerveau est un organe, le sexe en est un autre. Au premier degré, on peut répondre que non, parce qu'un cerveau avec des testicules et un pénis ou un vagin, je pense que morphologiquement, on le constate. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que le cerveau a une identité sexuelle propre, indépendamment du sexe qui lui est rattaché sur le corps ? Voilà.
Alors, pour la première question, à ma connaissance, hein, on ne peut pas dire qu'il y a une région qui spécifiquement va nous permettre d'identifier notre sexe, enfin notre genre. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez, notamment en neurologie, on raisonne beaucoup en termes anatomo-cliniques, hein, et ça depuis Broca et compagnie, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une lésion localisée, par exemple à la suite d'un accident vasculaire cérébral, une attaque, hein, va détruire une petite région du cerveau, et on fera le rapprochement avec le déficit qu'il va présenter, et la lésion, où elle se situe, la topographie de la lésion. Si par exemple j'ai une paralysie de mon côté droit, je vais faire le rapprochement avec la lésion qui va siéger sur les régions motrices de la partie gauche de mon cerveau. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas la connaissance de cas où une personne pourrait avoir perdu son identité sexuelle ou une identité genrée à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui aurait touché une région très précise, etc. Vraiment, en revanche, on a des représentations corporelles qui sont imprimées sur notre cortex, hein, y compris au niveau des organes génitaux. C'est-à-dire que nos organes génitaux ont une représentation corporelle. Par exemple, vous avez entendu parler des fantômes de membres, hein, c'est-à-dire qu'à la suite d'amputations, le fait que notre représentation corticale, c'est-à-dire la représentation de notre membre au niveau du cortex, persiste. En tout cas assez longtemps après l'amputation, fait que les gens qui n'ont plus de bras, par exemple, peuvent très bien sentir un bras, hein, ils ferment les yeux et ils sentent que leur bras est là. Hein, c'est ce qu'on appelle le membre fantôme. Ce phénomène a été tout à fait observé dans les cas de castration accidentelle, par exemple des gens qui sont castrés de manière accidentelle vont avoir des fantômes de pénis. Et ce fantôme de pénis peut même avoir des érections. C'est-à-dire que devant des images excitantes, ils vont sentir une érection du fantôme de pénis. C'est pour dire qu'il y a quand même une inscription quelque part, finalement, dans le cortex de ces représentations physiques. Mais on est loin des questions de genre, d'identité sexuelle, hein, là-dessus. On est vraiment sur du somatique. Alors, la deuxième question, je ne sais plus si elle s'adressait vraiment à moi. C'était... Alors, c'était quoi, Philippe ?
On peut peut-être demander à reformuler la deuxième question.
Ouais, je suis désolé, je me suis concentré pour répondre à la première. Ouais.
La deuxième question était principalement axée sur le fait de savoir si le cerveau à lui-même une identité propre, une identité sexuelle propre, indépendamment du sexe qu'on a, nous.
D'accord, parce que c'est une question pour Philippe, ça, je me rappelle maintenant.
Qu'est-ce qu'on appelle... Alors, est-ce que le cerveau a une identité sexuelle propre ? Est-ce que le cerveau a une identité ? C'est ça, la question ? Non, mais est-ce que d'abord le cerveau a une identité ? Qu'est-ce que vous entendez par une identité indépendante ? Est-ce que le cerveau a une identité ? Indépendamment, c'est ça. Est-ce que le cerveau a une identité sexuelle indépendamment du sexe auquel on appartient ? Mais précise. Non, c'est pas pour me défausser, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement avant que je réponde ? Je promets que je vais répondre.
Il va falloir que je réponde à votre question.
Ouais, voilà. Non, mais c'est de préciser le vocabulaire.
En fait, c'est de se dire... Je me dis, par exemple, si un enfant naît et qu'on le prive de la vision de son sexe, est-ce que le cerveau, lui, sait qu'il est un homme ou une femme, voilà. sans même qu'il ait eu connaissance de ça ? D'où ma question, est-ce que le cerveau lui-même avait cette identité sexuelle
Après, est-ce que sans représentation anatomique, l'enfant peut s'identifier garçon ou fille ? Alors, j'y répondrai de manière assez simple, c'est que la reconnaissance même de l'existence du sujet suppose le regard d'un autre. Parce qu'un enfant qui naît comme ça, abandonné par les parents et pas adopté comme Mowgli, qu'est-ce qu'il sait de la réalité de son sexe sans opposition à un autre et qui lui soit désigné comme tel ? C'est comme ça la question base. Alors après, est-ce qu'il peut, le cerveau, alors quand on dit est-ce que le cerveau peut, on a l'impression qu'il y a le cerveau d'un côté, puis il y a l'humain à côté de son cerveau qui se pose des questions. C'est ça qui me trouble toujours dans la manière. Est-ce que le cerveau, parce que maintenant vous savez ou vous ne savez pas, mais enfin vous allez le voir dans tous les magazines, c'est que maintenant le deuxième cerveau, il y a plein d'articles, c'est l'intestin. Dans la représentation, l'identité au niveau des anses intestinales, vu le nombre de mètres qu'on a déroulé pour savoir où ça se trouve, la question de tout à l'heure était intéressante sur un plan épistémologique, dans l'évolution des idées. Pourquoi maintenant on déplacerait le cerveau vers l'intestin ? Mais la question de la représentation du sujet, alors je vois pas d'enfant. Mais chez des adultes, effectivement, c'est peut-être pas la réponse directe, mais la perception d'être, de se sentir d'un autre sexe que celui qui est représenté par les organes génitaux qu'on possède, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question des transgenres. Des personnes qui viennent et qui disent « mais je me suis senti garçon, j'ai un corps de fille, et puis maintenant, puisque tout est possible moyennant quelques dollars, eh ben, il faut me faire le corps qui correspond à ce que je ressens ». Alors, jusque-là, on disait, on essayait de faire coller la représentation au corps qu'on avait. C'était un peu plus tôt notre démarche. Donc, il y a un ressenti. Alors, je ne sais pas à quel âge il est possible de le verbaliser. Parce que la perception de son sexe comme étant un sexe, je postule qu'au départ de la vie, comme disait Laurent Percueil, il y a des sensations. Puis après, la représentation de soi suppose, comme pour toute chose, par opposition. Dire savoir qu'on a un sexe masculin suppose qu'il en existe un autre, ou plusieurs autres, parce que maintenant, il y en aura peut-être plusieurs. Donc voilà, alors, se représenter avant la perception de la reconnaissance du sexe qui est anatomique, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment le cerveau de quelqu'un, donc l'enfant, se dit « je me sens de tel sexe » avant même de percevoir qu'il en a un, c'est-à-dire qu'il repère ses organes génitaux, c'est ce que vous dites. Je ne sais pas s'il y a c'est difficile d'en avoir une réponse à cet âge-là. Après, en revanche, en grandissant, en général, il faut remonter à assez tôt. Ils disent depuis petit, autour de 6-7 ans. Puis après, il y a le phénomène de mémoire, à savoir qu'on n'a pas, dans le récit des sujets, des notions extrêmement précises de ce que l'humain pensait avant un âge où la mémoire permet de le restituer aussi. Ça, c'est une barrière, c'est ça, même si... Les sciences molles ne sont pas scientifiques. C'est quand même la limite d'observation rigoureuse. Maintenant, tu peux peut-être... Est-ce que ça répond à votre question ?
J'avais pas de réponse.
Bon. Oui, moi, je voudrais venir sur la question des hommes monotâches et des femmes multitâches.
Moi, je suis un mec, j'ai déjà parlé et respiré, j'ai un peu du mal, hein, faire deux choses à la fois. Est-ce qu'on sait d'où ça vient ? Moi, j'avoue aussi que je m'en sers un petit peu. Quand ma femme me demande un tas de choses à faire, je lui dis ah, « stop, je suis un mec, une seule chose à la fois » et ça me permet d'éliminer un certain nombre de choses. Donc, il y a une partie société et puis il y a une partie quand même qui, à mon avis, est réelle. Est-ce que vous avez un peu des choses là-dessus ? J'ai entendu qu'il y avait des « A » dans la salle. C'est que c'est une question qui intéresse apparemment.
Alors, ce que moi j'ai lu pour préparer ce Café Science, hein, c'était un bon exemple de préjugés. Hein, donc, on trouve aussi des hommes multitâches et des femmes monotâches. On a beaucoup de mal à l'asseoir sur une base scientifique claire. C'est compliqué avec des statistiques. Hein. Et d'ailleurs, l'étude que j'ai lue, elle commençait avec cette phrase de Mark Twain qui dit « Il y a trois types de mensonges. Il y a les mensonges, les sales mensonges et les statistiques. Voilà. » Et après, ils expliquaient que voilà. Et la conclusion de l'article était intéressante quand même. Elle disait que la seule chose qu'on a réussi à établir statistiquement, c'est que quand on fait plusieurs choses à la fois, on les fait moins bien. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le gros acquis. Voilà. Donc, oui, c'est un bel exemple de préjugé. Il n'y a pas de raison. Il y a une neurologue, alors peut-être tu la connais, Catherine Vidal, qui dénonce beaucoup ce genre de préjugé. La femme est la reine des fourneaux et l'homme est le roi du créneau. Hein. Et donc, effectivement, en termes de représentation spatiale, comme on disait tout à l'heure, les hommes, ils voient mieux la voiture se déplacer au moment de faire le créneau. Et puis, bon, il y a des choses comme ça. Et alors, elle est très virulente sur ça. Et elle dit, non, il n'y a pas de différence. Voilà. Mais là, il faut le rendre complet.
Voilà, oui, parce que Catherine Vidal a des positions qui sont extrêmement contestées.
Oui, contestables. Mais...
Elle défend la position qu'il n'y a pas de différence et que tout est. L'un de ses arguments, c'est notamment celui qui a plus de différence entre deux individus d'un même sexe que entre les deux sexes. Et c'est une différence qui ne tient pas la route lorsqu'on se place sur le point de vue effectivement statistique, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie des différences de population. Bien sûr, au sein des populations, il y a des différences importantes parmi les membres de la population, c'est évident. Hein. Et ces différences, elles peuvent être beaucoup plus importantes que ce qu'on appelle la taille d'effet, c'est-à-dire la différence qu'on va mesurer. Et ça, c'est vrai pour toutes les différences qu'on mesure dans deux populations. Si on mesure la différence entre la longueur des cheveux moyens des garçons et des filles, on trouvera une différence qui sera valable à l'échelle de la population, pas à l'échelle interindividuelle. Il y a des filles qui ont des cheveux très courts, des garçons qui ont des cheveux très longs. Il n'empêche que en moyenne, c'est le côté, encore une fois, c'est le côté un peu décevant d'une approche scientifique qui fait que, oui, on a tous des exemples en tête qui vont contredire les analyses sur les populations. Et alors, ceci dit, c'est vrai aussi qu'il y a des stéréotypes, des lieux communs, des choses extrêmement raccourcies. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, etc. etc. Donc, là-dessus, il faut bien sûr s'opposer et regarder ça avec un œil critique. Sur les côtés multitâches, monotâches, c'est effectivement très, très, très grossier comme façon de voir. Des données qu'on a qui sont sûrement encore contestables parce que ce n'est pas beaucoup d'études, ce n'est pas beaucoup de choses, montrent que lorsqu'on regarde sur les mêmes tâches, hein, on fait faire la même tâche à des populations de garçons et de filles, et on compare un petit peu les façons d'activer, donc d'utiliser le cerveau, en moyenne, de manière statistique, les façons d'activer sont assez différentes dans la mesure où il y a plus d'activation distribuée chez la femme que chez l'homme. L'homme va avoir tendance à utiliser des régions assez limitées topographiquement, alors que la femme va recruter beaucoup de régions cérébrales pour une même tâche. Et quand on s'est rendu compte de ça, c'est venu conforter d'autres travaux plus anciens, eux aussi contestables, notamment parce que c'était des travaux anatomiques sur cerveau, etc., etc., où on mesurait des épaisseurs de structures. On s'est rendu compte qu'en moyenne, à nouveau, les femmes avaient un corps calleux qui était plus épais que celui des hommes. Le corps calleux, c'est le faisceau de fibres qui relie nos deux hémisphères. Donc s'il est plus... Ensuite, attention, on rentre dans la phase... On quitte les faits, on passe à la phase un peu spéculation et tentative d'explication. S'il est plus épais, c'est peut-être parce que la femme a plus tendance à utiliser des régions distribuées dans le cerveau et que l'homme, lui, va être plus contingenté à des structures très, très localisées. Voilà. C'est la seule chose que je vois un petit peu qui approche, mais vraiment de très, très, très loin, votre thématique là, de monotâche versus multitâche.
Après, ce qui est important et au sens de dangereux, c'est ce que tu disais, c'est le message sous-jacent, c'est-à-dire que Si derrière, il y a l'idée de dire que les tâches précises nécessitent de l'attention particulière, une compétence particulière, une expertise particulière, et donc qu'elles sont forcément masculines, et inversement pour les femmes, c'est là qu'effectivement, la question de l'inégalité va se poser, des représentations et des stéréotypes aussi vont se diffuser de façon erronée et naturaliser un petit peu le phénomène en disant oui, mais ça renvoie à une nature vis-à-vis de laquelle c'est difficile de lutter, etc. Donc ça, c'est aussi...
D'autant que si je comprends bien, c'est pas tellement faire plusieurs tâches à la fois ou une, c'est plutôt une différenciation dans la manière d'accomplir une tâche ou plusieurs.
Et puis, encore une fois, la nature n'est pas du tout quelque chose qui doit emprisonner. L'homme est éminemment habitué depuis très longtemps, et heureusement, à lutter contre les phénomènes naturels. Les maladies sont des phénomènes naturels, et tout l'effort de la médecine, notamment, c'est de se battre contre la nature. Il y a des gens qui sont défavorisés parce qu'ils ont un handicap à la naissance. La culture, là, va leur donner les mêmes droits, on va les protéger, on va les aider à vivre, parce que c'est la culture qui veut ça. Hein, on n'est plus dans un monde où la biologie, effectivement, l'équipement qu'on a à l'arrivée dans ce monde-là va déterminer ce qu'on va devenir. Heureusement, on a notre appareil culturel qui nous permet de soutenir les gens qui ont été défavorisés à leur naissance pour leur aider à accéder au maximum de choses.
Parce que quelqu'un a été défavorisé, là ?
Non, je pensais à mon cas de la personne handicapée. Je ne parlais pas des femmes.
Ou des hommes ? Prenez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Trop tard.
Voilà. Une femme m'a aidé, merci, il fallait appuyer sur Juan. Non, mais je pense qu'il y a un petit peu du vrai là-dedans, mais... Moi, la réflexion que j'ai envie de dire là-dessus à propos de la femme multitâche et de l'homme monotâche, c'est que la maternité, déjà, et là, donc, ce besoin de se reproduire fait que c'est quand même la femme qui porte un enfant pendant 9 mois, puis qui l'élève ensuite pendant un certain temps, l'instinct maternel en est quelque part, la nature lui a donné, alors ça, vous êtes suffisamment éminent, je ne le suis pas pour pouvoir disserter là-dessus, mais... Moi, si je regarde ce que la nature a voulu faire, elle a fait que c'est les femmes qui font les enfants et que l'instinct maternel fait que c'est la femme qui, dans le plus jeune âge, élève un petit peu l'enfant au départ. Modulo ce qu'a dit, pas le prof, mais le médecin neurologue. Donc, je pense que la nature a fait en sorte que la femme soit un petit peu multitâche parce que soit quand elle est enceinte, soit quand l'enfant est né et qu'elle l'allait, elle est de la main droite en train de faire autre chose. Donc, naturellement, elle est habituée à faire plusieurs choses en même temps. Il s'avère que dans ma vie professionnelle, j'ai fait partie du tournant des gens qui se sont trouvés une génération où les femmes sont arrivées dans les entreprises industrielles. Et dans les entreprises industrielles, où la physique règne en maître, on a vu arriver des femmes, des ingénieurs. Je rappelle qu'il y a 40 ans, il y avait 5% de femmes en maths sup qui arrivaient dans une école d'ingénieurs. Aujourd'hui, il y en a 25 ou 30%. En gros, c'est le pourcentage de femmes à l'X aujourd'hui. Bien, ces femmes, quand elles sont dans la société industrielle et quand elles doivent accomplir des tâches dans une usine, sur un chantier ou autre, mais elles sont nettement plus performantes qu'un homme pour une simple raison, c'est qu'elles ont un instinct pragmatique de réaliser une tâche et de la réaliser avec une finalité, c'est-à-dire un livrable, alors que l'homme a un petit peu tendance à les intellectualiser, ces tâches, et quelque part, il en fait peut-être une, mais il est un petit peu moins performant. Et je pense donc, du coup, pour conclure, c'est que la nature, par ce que vous disiez tout à l'heure, ce rôle dans la maternité et dans la reproduction de l'espèce, a donné à la femme cette capacité d'être quelque part un peu plus multitâche que l'homme. Voilà.
Bravo. Alors, pardon, on va un peu vite parce qu'on doit libérer 10
ans. Non, je veux juste te dire aussi que ça peut être vu dans l'autre sens, c'est-à-dire que si les femmes sont multitâches, c'est parce que les hommes ne sont pas là non plus. C'est-à-dire qu'elles ont été aussi habituées à gérer tout un ensemble de tâches parce que justement, c'est vrai, et je le dis d'autant plus en tant qu'homme et père, se cacher entre guillemets derrière le fait que c'est l'instinct maternel nous arrange aussi, puisque derrière tout ça, on peut faire autre chose et donc se valoriser dans des sphères qui sont beaucoup plus valorisées, notamment sur le plan économique aujourd'hui, c'est le travail professionnel aussi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là qui interagit beaucoup et qui, dit dans la bouche d'un homme véhicule effectivement l'idée d'un peu d'une domination masculine, puisque quand moi je vais dire à ma femme aussi, voilà, c'est l'instinct maternel, c'est vrai que ça m'arrange aussi de le dire.
Oui, juste une dernière question.
Donc c'est moi qui vais clôturer, donc de façon très biologiste, parce que donc en tant que biologiste, moi j'ai vraiment la sensation qu'on a une imprégnation du cerveau par les hormones sexuelles, c'est ce qui va nous sexer au niveau du cerveau. Donc sur les études cliniques, hein, quand vous regardez, bah, c'est par rapport aux hormones sexuelles, hein, des filles et des garçons en faisant des tests. Donc je me demandais s'il y avait eu des études cliniques qui avaient été faites sur des femmes qui seraient ménopausées, donc avec un cerveau plus imprégné, ou des eunuques, qui seraient plus imprégnés non plus. Et est-ce que sur ces études cliniques-là, on voit une différence cérébrale ou pas ?
Enfin, je n'ai pas connaissance de travaux qui porteraient... bon, les eunuques, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Alors, y a, malheureusement, il y a une maladie qui est le cancer de la prostate, qui est traitée par hormonothérapie, hein, où il s'agit, à une époque, on faisait des pulpectomies, c'est-à-dire qu'on enlevait les testicules, ou alors on donne des hormones androcures qui bloquent l'action des hormones masculines, parce qu'on sait que c'est des facteurs aggravants du cancer, donc potentiellement peuvent augmenter le risque de récidive. Donc, cliniquement, on pourrait trouver des gens qui, effectivement, chez qui les hormones sont bloquées pour des raisons médicales, hein, bien sûr. Maintenant, même chez ces gens-là, je n'ai pas connaissance de travaux qui s'intéresseraient spécifiquement à ça. Maintenant, je ne connais pas l'ensemble de la littérature qui a été faite. Ça a peut-être été fait, hein, ça c'est possible. Hein. J'en profite, j'ai le micro pour rebondir juste sur, par rapport à ce qui a été dit avant sur les dictons, les lieux communs, etc. Attention à ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que quand on va observer quelque chose, ça va nous faire tilt si on a ces stéréotypes en tête et on dit « tu vois bien que ». Et on ne va pas relever ça si se passe quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. On ne va pas le relever. Donc on va retenir tout ce qui vient appuyer déjà nos représentations. Donc un dicton marche bien lorsqu'on voit que « ah ben, c'est forcément vrai puisque tu viens de le faire ». Donc c'est particulièrement vrai dans ces histoires de rôle. Hein, tu vois bien que c'est comme ça que ça se passe parce que tu as fait ça. On a tendance à renforcer les représentations lorsqu'on voit que c'est censé illustrer. Et on oublie l'immense majorité de fois où ça ne s'est pas produit de cette façon-là.
Merci. Vous voulez rajouter un mot ?
Ouais. Oui, juste sur le biais de confirmation, ça marche aussi contre les hommes. Hein, et y a, à ce biais de confirmation, il y a un autre biais, je ne sais pas combien il faudrait l'appeler. Si les filles réussissent mieux à l'école, on dit « ah, vous voyez, les filles réussissent mieux à l'école, c'est donc qu'elles ont des capacités pour réussir mieux que les garçons. » Et si les hommes ont des positions sociales plus fortes que les filles, c'est injuste. Et c'est donc qu'effectivement, il y a une sorte d'oppression et qu'on ne laisse pas les femmes arriver au poste de pouvoir. Donc voilà, c'est problématique et les biais, ils sont partout. Quoi. Donc il vaut mieux se méfier des préjugés.
Enfin, statistiquement, c'est peut-être un peu vrai. Quoi.
Oui, mais alors statistiquement, bon, on ne va pas lancer le débat sur les statistiques, mais qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde, par exemple, au sommet de l'échelle sociale, il y a plus d'hommes que de femmes dans des positions de pouvoir. Si on regarde l'autre extrémité de l'échelle sociale, il y a aussi plus d'hommes que de femmes. C'est-à-dire, dans les très, très, très pauvres, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Philippe le disait tout à l'heure, en prison, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans les couloirs de la mort, il y a zéro femme. Et donc, si on regarde, ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde avec les statistiques. Et la distribution statistique, évidemment, si elle porte que sur une petite tranche, c'est un biais, c'est un biais énorme. C'est pour ça que je disais, les statistiques, c'est à la fois un bel outil, mais c'est difficile à manier, il faut bien tout regarder, et voilà. Et donc, bon, c'est un autre débat.
Merci. Bon, eh bien, je voulais remercier donc les intervenants, vous remercier d'être venus aussi. Oui. Alors, on avait une question aussi. C'était savoir comment vous avez eu donc l'information pour venir ici, enfin, par rapport à la... Alors, donc, est-ce que c'est, par exemple, première question par mail ? Faut lever la main. Donc par mail, d'accord. Alors via Internet par un autre moyen, genre Facebook ou autre. Ouais, c'est à peu près ça.
Tu notes hein, pour les statistiques. Ouais.
D'accord. Donc ça fait à peu près moitié-moitié, on va dire, à la louche. Et donc par un autre moyen, donc c'est la troisième voie, c'est-à-dire par bouche à oreille ou quelque chose comme ça. Ah, c'est quand même, ils sont plus nombreux, hein. Ouais. Bon bah merci beaucoup. Alors si vous voulez recevoir les, ouais, oui c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez donc recevoir l'information pour les prochains cafés donc par mail, vous pouvez en partant donc laisser votre adresse mail. D'autre part, le prochain café, justement, c'est le 19 novembre, c'est ça ? Confirmation. Donc c'est bien le 19. Et c'est sur le réchauffement climatique. Voilà. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.